la kansyel te gen vwa, si la kansyel te ka chante, se tan ko l'uman li ta chante. Kote l'uman pran la vwa, se an toubyon ki leve, mande pye palmisyo danse. Epok sa, se nan tan bisantne, si ou fet avan yè, ou pa ka kone. Ki jan ayisyen te fou pou li, ki jan yo te reme, l'uman Kazimi. Yon ti fi, yon ti kome provins, ki vini Port-au-Prince, ki vini chache la vi. Yon ti fi, sans ami, sans fami, yon gita, yon babrala, ki yon l'espoir nan voal. Lèl kampe pou l'chante, o signal ka pase, vin pose pou tande. Se kon sa, de toi jou pa pase, nan la kou bwa venase, de li a pale. Nan yon ti kay san lumye, ki te dan la kou fos Saint-Clair, de yon ti fi ki pou atrine.
C'était Papa Guédé, une cover de Naika. Vous écoutez le 10e numéro de What the F Podcast, un podcast de Fania Noël. Je vous souhaite la bienvenue chaleureusement, mais de loin.
Pour bali manger, mais faut qu'on ait, c'est yos derniers amis, c'est yos derniers familles.
Quand je vois les gens qui continuent à aller au parc, à se mettre ensemble, à aller à la plage dans certains endroits, ou à se ruer dans les marchés ouverts, ils n'ont pas compris le message. Donc, de dire au moins un mètre de distance, on ne se serre pas la main, on se lève avec du gel, que tout le monde fasse ça, qu'on ne sorte qu'en stricte nécessité pour aller faire ses courses, une fois par jour pour prendre l'air, etc., qu'on ne se regroupe pas, ça c'est fondamental, c'est le plus important. Ce que j'observe, c'est que ça n'est pas aujourd'hui parfaitement respecté. On a beaucoup de nos concitoyens qui prennent encore ça à la légère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas réaliser.
C'est le confinement. Le président n'a pas voulu dire le terme, mais le Premier ministre a dit le terme. Le ministre de l'Intérieur aussi est venu dire le terme. Donc on est invité chaleureusement, non pas chaleureusement, on est invité avec force, détermination et autorité à rester chez nous. À ne pas sortir pour arrêter de propager la maladie. Donc on reste dans le thème confinement aujourd'hui. Je suis aussi confinée, je suis coincée à Paris, en France. Je ne peux pas retourner à New York ou en Haïti. Donc voilà, je suis là avec vous, on est ensemble. Hein. Donc on reste dans le thème, on va parler de la tendance Thanos pour les fans de Marvel. Ou pour les plus classiques, de la tendance au malthusianisme. Donc voilà, et pourquoi c'est un cul-de-sac politique. Puis, sur une note plus personnelle, dans la deuxième partie, je réponds à la question qu'on m'a posée sur Instagram, comment être productif pendant la quarantaine. Parce que si vous ne le savez pas, on m'appelle Organisator, je suis... The boss ass bitch du calendaring, to-do list, email, etc. Team inbox zéro. Donc voilà. Et puis voilà, on va passer un petit moment chez soi. J'espère que vous écouterez ça de chez vous et pas en faisant semblant de promener le chien de votre voisin pour la 8e fois. Alors, pourquoi je parlais de la tendance Thanos vis-à-vis du Covid-19, ce qui se passe avec le Covid-19, pour ceux qui n'ont pas regardé, qui ne sont pas fans et qui n'ont même pas regardé Avengers Infinity War et The Endgame, Thanos a éliminé la moitié de l'humanité, mais non, de tout l'univers, des êtres humains, la moitié. C'est-à-dire même pas que cette planète, de plein d'autres planètes. Et son justificatif de son acte terrible, de son acte multigénocidaire, parce que c'est pas qu'un seul peuple, c'est vraiment un génocide. Est-ce qu'on dit... C'est quoi le mot ? Je ne sais pas si on dit génocide, si c'est toute une espèce et si c'est différentes espèces. Enfin, vous chercherez. Donc voilà, donc c'est pour ça que je parlais de la tendance Thanos, et il a justifié ça en disant que voilà, c'était nécessaire parce que c'était cette activité d'être humain, d'être vivant, enfin de ce qui peut être accaparé, qui détruit l'univers, les planètes, l'écologie, etc., et qui crée des catastrophes. Donc ça partait, on peut dire, si on est superficiel, d'un bon sentiment. Et pour les plus classiques, la tendance malthusianisme, donc ça c'est le terme un peu plus sociologique pour ce que Thanos il a fait, c'est un dérivé d'un nom d'un économiste britannique qui s'appelait Thomas Malthus, mais c'est pas lui qui a décidé d'appeler le truc le malthusianisme, parce que comme souvent, comme pour Machiavel, par exemple, le machiavélisme et son dérivé, être machiavélique, sont apparus bien après Machiavel. Donc le pauvre, il ne devait sûrement pas être au courant que son livre, qui était le prince de Machiavel, son livre qui était un livre de stratégie et de conseil, servirait à faire ça. Bref, donc le malthusianisme de cet économiste qui est fin du 18e, début du 19e, genre 1830, il est mort, un truc comme ça. Le mot, c'est notre cher Proudhon qu'il a utilisé au milieu du 19e siècle, en 1849. Pour parler de cette tendance à vouloir faire de la limitation des naissances dans un but, ouvrez les guillemets et mettez plein de guillemets, social. Donc voilà, social, entendez, économique, voilà. Donc on peut retrouver des reconfigurations de ce malthusianisme dans des discours écolos. On retrouve chez des gens qui disent oui, ben voilà, c'est la réponse au changement climatique, c'est qu'il faudrait moins d'êtres vivants, etc., pour faire ça. Et souvent, il n'y a qu'un pas entre ce malthusianisme à visée écologique et l'eugénisme, c'est-à-dire soit par la classe, c'est-à-dire les gens qui doivent faire moins d'enfants, c'est souvent les pauvres, et aussi par la race, les gens qui doivent faire moins d'enfants, c'est souvent les gens dans certaines aires géographiques, et plus précisément en Afrique, mais aussi en Asie, mais un peu moins en Asie maintenant, depuis qu'on met en avant le super modèle chinois qui a réduit les naissances de manière drastique dans les décennies précédentes. Donc souvent en Afrique, qu'on présente comme surpeuplée, alors que l'Afrique n'est pas du tout surpeuplée, au vu du ratio personne au mètre carré, mais aussi du ratio personne et consommation, on pourrait dire que le problème se concentre plus en Amérique du Nord et dans l'Europe, et surtout l'Europe de l'Ouest, plus qu'en Afrique. Mais, comme vous le savez bien, quand Sarkozy est obsédé par les femmes africaines, Macron aussi il est obsédé par le nombre d'enfants qu'elles font, où et pourquoi, ça traduit bien ce genre de discours qui dit qu'il y a certaines personnes, bah, en fait, elles contribuent plus que d'autres par le simple fait d'exister et de créer des familles, au problème qui est le réchauffement climatique. Et on voit la reconfiguration de ces formes de malthusianisme avec ce qui se passe actuellement avec le Covid-19. C'est-à-dire qu'on voit plein de vidéos, oh regardez, on voit ce qui à Rome, à Venise là, oui c'est ça, à Venise, on peut voir le fond de l'eau à Venise, il y a des dauphins qui se promènent, et c'est enregistré une baisse de la pollution, y a plein de choses, parce que les autres êtres vivants qui peuplent cette planète, qui ne sont pas les êtres humains, en effet, vu que les êtres humains, dans certaines zones, sont coinchés chez eux, que les industries sont à l'arrêt, ils peuvent prendre toute la place. Le problème de cette chose-là, de cette position qui a l'air altruiste, c'est qu'en fait, elle cache un cul-de-sac politique et social et eugéniste, parce qu'en fait, quand il va falloir choisir qui est-ce qu'il faut éliminer, qui est-ce qui doit arrêter de se reproduire, qui est-ce qui doit se sacrifier pour qu'il y ait moins d'êtres humains, et on met le chiffre à combien? Est-ce que c'est 10%, 20% de la population mondiale qu'il faut couper, 30%, et on les coupe où? Est-ce que c'est mieux, est-ce qu'il faut couper 40% dans les pays pauvres pour arriver à un résultat, ou c'est mieux de couper 5% dans les pays riches? Et les 5% des pays riches, on les prend chez qui? Chez les pauvres, chez les classes moyennes, chez les riches, chez les milliardaires? Bon, la réponse, spoiler, ce sera jamais chez les riches et chez les milliardaires et chez les politiques, ce sera tout le temps chez les pauvres. C'est-à-dire, après, reste à décider si ce sera chez les pauvres du Nord ou chez la marge, c'est-à-dire les pays du Sud global et les pauvres du Sud. Ce qui pose un problème qui fait que là, on est dans une solution qui serait une solution magique, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au système qui est basé sur le profit, l'accumulation du profit, son extraction et sa survalorisation par l'exploitation du prolétariat et le transfert des ressources avec le néocolonialisme. On ne touche pas à ça, on garde tout pareil, sauf qu'on fait qu'il y a moins de gens, qui fait que on peut se partager un peu mieux les miettes que laisse la bourgeoisie, et on peut un peu mieux respirer. Ce n'est pas du tout une solution tenable, et ce n'est pas du tout une solution ni de libération, ni de justice sociale, ni de justice tout court. C'est-à-dire que penser que ça puisse être une solution magique en disant, ben, comme on n'arrive pas à faire bouger politiquement par la mobilisation, ben, le mieux, on n'a qu'à convaincre les gens d'arrêter de faire des gosses ou de disparaître d'eux-mêmes ou de ne pas remplacer la population et qu'on laisse le système comme ça. Donc ça, c'est vraiment un premier gros cul-de-sac. Le deuxième cul-de-sac, c'est quand ces arguments sont mobilisés à des fins pour entraîner les gens dans la mobilisation politique, oh, vous voyez, etc., comme si ça allait les convaincre de rejoindre des luttes. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas avec les êtres humains, c'est que mobiliser la peur, la terreur, surtout dans un moment où les gens ils sont anxieux pour parce qu'on parle de maladie, il y a des questions de mort, même si ils sont pas, on parle pas d'un million de morts, mais questions de mort et de santé, mais aussi pour leur activité, qu'est-ce qui va se passer après, pour les prêts qu'ils ont à payer, est-ce que leur entreprise va faire faillite, est-ce qu'ils vont se faire virer, est-ce qu'ils auront un travail, est-ce qu'ils vont rembourser leurs prêts, c'est-à-dire essayer de mobiliser les gens en disant « Oh, regardez, il y a quelque chose de bien qui sort de ça alors qu'ils sont dans des périodes confinées chez eux, anxieux à savoir qu'est-ce qui va se passer », ça ne sert à rien. Ça ne servait à rien. De toute façon, peut-être que ça va convaincre 10 personnes qui sont bien chez eux et que la crise va rien changer pour faire des tweets et des Instagram de belles images de l'eau à Venise. Mais dans le long cours, ça ne va pas changer parce que il y a un niveau d'anxiété sur l'avenir, sur ce qui va se passer, parce qu'on a tous conscience que de toute façon, c'était prévu qu'il y aurait eu une crise financière. Tout le monde en parle. C'est pas un secret de Polichinelle. Et que là, il y a cette crise sanitaire qui avance l'heure de la crise financière, mais qui tombe d'un seul coup. Et je pense que les gens, ils ont un bon pressentiment que ça va, que même si la quarantaine, le confinement ne dure pas, il y a des choses qui vont, des conséquences qui vont durer bien plus longtemps. Et il n'y a rien de pire que vivre une crise, parce qu'on n'est pas dans un système socialiste, on est ou communiste, ou de la fin de la lutte des classes. On est dans un système capitaliste. Donc là, on vit une crise dans un système capitaliste sans les ressources d'une organisation dite communiste ou communautaire ou des choses. Alors que nous, quand même, il y a des situations qui sont un peu mieux, on va dire, parce que, par exemple, il y a eu des annonces qui ont été faites sur le chômage partiel parce que Macron n'avait pas fini de démanteler tout le système de protection sociale. Mais vous regardez aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que moi, je vois toutes mes camarades qui sont militants, ils sont obligés de faire des grosses cagnottes pour donner de l'argent à des personnes qui vivent paycheck to paycheck, ça veut dire qu'ils sont payés toutes les deux semaines, et s'ils n'ont pas ces deux semaines, ils se retrouvent à la rue, et ça va avoir des conséquences extrêmement graves. Donc dans cette situation, et dans des autres pays où il n'y a pas un système collectiviste de protection sociale, et que les gens ils vivent vraiment dans le travail informel, ça a des conséquences immédiates, et à long terme extrêmement grave, et on peut pas mobiliser les gens en leur disant « Oh, regardez, il y a un bon truc, c'est la fin du capitalisme. » Parce que là, ce que vous leur dites, regardez, quand il y aura la fin du capitalisme, on pourra bien respirer, et vous serez dans une situation d'angoisse, parce que vous saurez pas si vous pouvez payer vos emprunts, votre appartement, si votre boîte elle sera toujours là, si vous pourrez faire des choses, si vous allez récupérer vos clients. Au contraire, ce qui serait utile de faire, c'est si le but c'est ensuite se servir des leçons qu'on peut apprendre là pour un but de mobilisation, c'est actuellement parler des systèmes de solidarité qui sont nécessaires, soit collectivement à l'échelle d'un État, soit communautairement. Là, je parle plus pour mes camarades qui sont dans des pays extrêmement libéraux, beaucoup plus qu'en France, comme les États-Unis. À l'échelle communautaire, il y a des militants qui s'organisent, c'est-à-dire comment on organise des mobilisations et des grèves de loyers, et comment on organise des grèves de loyers. C'est-à-dire que c'est pas tout seul. On dit pas aux gens, bah, toi, t'arrêtes de payer ton loyer. Non, ça demande une organisation de tout un immeuble, de tout un quartier, par exemple, pour arrêter de payer son loyer et faire pression sur le propriétaire afin qu'il ne vire pas les gens, parce qu'il pourra pas virer tout le monde en même temps. Mais pour que ça mène soit sur des reports de loyer, soit sur une diminution du loyer. Donc, en fait, utiliser ce temps pour apprendre qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour aider les gens là, maintenant, pour les aider à moins être, pour qu'on soit tous moins anxieux et pour être préparés à quand on sera sorti de ce confinement pour entrer peut-être dans une crise économique et penser à ce qu'on va faire, mais aussi s'acclimater, s'habituer à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on va pas lâcher dans le bain de la mobilisation ce qui attend après, mais de dire, ben en fait, là, la priorité, c'est de construire des solidarités, soit en faisant pression sur le gouvernement pour qu'il fasse beaucoup plus, par exemple, dans le contexte français, en termes de dédommagement, de pression sur les entreprises pour protéger les employés, de leur employeur qui veut qu'ils aillent travailler, en termes d'indemnisation, soit en trouvant des systèmes de solidarité pour aider les gens les plus vulnérables, les personnes qui sont ni employées ni chefs d'entreprise, qui sont indépendants, qui sont dans une zone grise où ils savent pas trop, et réfléchir ensemble pour que ensuite, quand on sorte de cette crise sanitaire pour entrer peut-être dans une crise économique, qu'il y ait un projet, parce qu'on peut pas juste dire ah ok, ça collapse sans le projet, parce que sinon ça va tétaniser les gens. Et je crois qu'il y a il y a une peur de ce que qu'on dit, oui, la révolution, sur la période où ben en fait il y aura que le collapse mais pas de projet. Donc peut-être c'est le moment pour les organisations politiques qui portent un projet révolutionnaire de changement de société, anticapitaliste, de libération, que ce soit antiraciste, de libération noire, de dire ce qu'il y a dans leur projet qui ferait en sorte que cette situation aurait été prise en charge différemment et aurait créé beaucoup de moins d'anxiété. D'expliquer et d'être pédagogique sur le fait que si on était dans un autre système, il y aurait peut-être eu cette crise sanitaire, d'autres crises sanitaires, mais parce qu'on aurait été dans des systèmes de solidarité collective, on aurait été le confinement, mais dans le confinement, vous n'auriez pas eu à réfléchir à plein de choses, le loyer, est-ce que vous serez viré, les gens qui sont sous-payés, etc., et les rapports de classe. Donc en fait, c'est le moment de pousser, d'expliquer, d'être pédagogique, les gens sont coincés chez eux. C'est le moment de sortir out there, là, comme ils disent les Américains, et d'expliquer pourquoi, pour prévenir la prochaine crise, qu'elle soit économique, sanitaire, on doit changer de système et radicalement. Et pour expliquer ça, on ne peut pas se reposer sur la peur des gens en leur disant « Oh, c'est génial, vous êtes coincés chez vous, vous n'aurez plus de boulot, mais regardez, on respire mieux. » Ça ne pousse pas les gens à la mobilisation, ça ne les pousse pas à se mettre en mouvement, ça crée plus d'anxiété, plus de peur, et ça ne crée pas assez d'espoir, parce qu'en fait, pour se mobiliser, il faut un espoir qu'on puisse changer les choses. Si on dit « La seule solution, c'est la mort », ben, ça fait bouger personne. Donc, voilà, c'était mon 2 cents sur cette question. Donc, arrêtez de faire les Thanos et Malthusien ou whatever. Donc, voilà. Il y a assez d'anxiété dehors. On n'a pas besoin d'ajouter plus d'anxiété dans cette situation. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram, parce que je fais des... Je faisais des workshops. Les 3 derniers jours, j'ai fait des workshops en ligne sur comment organiser son temps, pour expliquer c'est quoi ma méthode d'organisation de mon temps, pas que pour le télétravail, mais en général, comment j'organise mon agenda, mes to-do list, comment je fais que tous les trucs que je fais soient faits en temps et en heure. Donc j'ai donné des workshops en tout 25 personnes, non attends, ouais, 20 personnes, lundi, mardi et mercredi en tout, et je le refais mardi, les 2 prochains mardis. Donc, vous allez sur ma page Instagram, vous tapez workshop et vous pouvez vous inscrire. Donc, voilà. Donc, quelqu'un m'a demandé comment peut-on profiter de ce temps pour être productif pendant les 2 semaines de quarantaine, voire plus 3 semaines. Alors, pour commencer, fuck la productivité. Voilà. Il faut arrêter de vouloir être productif. Alors, moi, je suis vraiment pas une... Genre, j'adore être organisée, mais la productivité, c'est vraiment pas un de mes dada dans la vie. Donc, au lieu de savoir comment être productif pendant ces jours de quarantaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je sais pas, on peut réfléchir à, justement, pourquoi ne pas essayer de ne pas être productif. Voilà. Ça, ce serait vraiment bien. Donc, ce qui va se passer, parce que je sais que vous avez tous des grands projets. J'ai eu des gens, là, ils ont des grands projets. Ils ont décidé que pendant ces 3 semaines, ça y est, c'est... Vous savez, à chaque fois qu'on dit, oh, il me faut juste 2 semaines ou 1 semaine, aux prochaines vacances, je vais tout ranger, je vais lire tous ces livres, rattraper tout l'intégrale de Mad Men, et puis je vais faire ça et ça, et je vais faire un site, etc. Et on attend ce temps béni où on aurait 2 semaines totalement blanche, vide, où on pourra faire tous les trucs qui nous feront penser qu'on est des super êtres humains et qu'on est géniaux et qu'on tient notre parole, etc. Ça n'arrive pas parce que c'est pas l'expérience humaine et c'est pas la vie. C'est pas la vie. Il y aura pas 2 semaines où il y aura juste rien et vous pourrez magiquement faire tous les trucs que dans votre tête vous êtes mis comme objectif pour prouver que vous êtes bien et productif. Donc, laissez tomber ça. Ce qui ne va pas se passer, c'est que vous avez... Dans ce truc où il y a plein d'anxiété dehors et que vous pensez à autre chose, vous n'allez pas être super productif. Vous n'allez pas pouvoir travailler 9 heures, 8 heures, etc. Donc, c'est pas la peine d'essayer de planifier ce que vous allez faire pendant 3 semaines, alors que du jour au lendemain, les informations changent sur où on peut aller, quand, à quelle heure, pourquoi, si c'est quarantaine totale, est-ce qu'il y aura un couvre-feu? Non, ça, c'est pas possible. Donc, essayez de faire un jour à la fois. Ça, c'est très bien, un jour à la fois. Et vous mettez pas la pression de la productivité. En fait, je pense surtout pour des gens qui sont en télétravail, mais en télétravail avec des enfants, avec leur partenaire ou tout seul, ou qui ont d'autres problèmes, parce que les autres problèmes, ils ne sont pas juste arrêtés avec le Covid-19. Et il faut gérer tout ça. Donc, ça sert à rien d'essayer d'être des super-humains. Il faut juste confronter la réalité. Voilà. On est dans un temps où il y a plein d'informations, où vous pouvez être stressé, où vous pouvez avoir de l'anxiété, où vous savez pas ce qui va se passer dans 1 semaine, etc., que vous avez des doutes sur votre travail et tout. Donc, votre cerveau, il va pas être le plus performant possible, même si, soi-disant, vous avez du temps parce que vous êtes coincé chez vous, alors qu'en fait, il y a plein de choses et il y a la vie qui doit continuer. Donc, au lieu de se mettre la pression de la productivité, profitez-en pour réfléchir sur autre chose, des choses sur lesquelles vous n'avez pas le temps de faire quand vous êtes dehors, sur c'est quoi votre vision pour votre vie. Est-ce que ce que vous faites dans votre travail, c'est ça, c'est ce que vous voulez faire? Comment vous vous sentez? Quel genre d'amis vous êtes? Comment vous êtes avec votre famille? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Est-ce que vous êtes allé au-delà des choses que vous regrettez? C'est quoi vos relations avec vous-même? Et pourquoi vous vous êtes mis ces genres d'objectifs, etc.? Donc, moi, je dirais, n'essayez pas d'être productif. Essayez juste d'être le moins anxieux possible, le moins stressé possible. Vous pouvez vous mettre des baseline minimum. Moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je dis que au minimum, je travaille 3 heures par jour. Ça, je me suis dit, voilà, ça, je peux tenir. Je travaille 3 heures par jour, ça veut dire, ça fait 30 minutes d'email, faire des trucs, etc. Ça, c'est, voilà, je me suis mis 3 heures par jour, je travaille, et après, le reste, advienne que pourra. Il y a des jours, comme aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, je crois que j'ai travaillé 8 heures, mais hier, par exemple, j'ai travaillé juste les 3 heures que j'ai dit. Donc voilà, donc j'essaye pas d'être productif, j'essaye juste de faire en sorte que ces jours que je vais passer en confinement chez moi seule, loin de mes amis, de mon mari, de mon appartement, de chez moi vraiment, parce que là je suis en sous-location, donc c'est pas vraiment chez moi, dans ce chez moi temporaire, se passe le moins mal possible, mais si possible le mieux possible. Donc la réponse à la question, laissez tomber la productivité. Merci, j'espère que, à défaut d'avoir pensé autre chose qu'au Covid et au confinement, vous avez pu penser au-delà. On va se quitter avec quand c'est de Kai et de Rachel Guillaume, qui sont haïtiens. Et avant ça, je vais lire un extrait du livre de ma très chère amie Maboula Somoro, Le triangle et l'hexagone. À très bientôt, et n'oubliez pas, restez chez vous. Qu'a-t-on donc le droit de dire dans l'espace public? Qui a l'accès à la parole publique dans ce pays qui est le nôtre? Quelles sont les conditions de cet accès? Mon expérience des médias français, télévision et radio depuis 2012 m'a enseigné ce qui suit. C'est pleinement conscient des enjeux liés à la question de la représentation que je me rends sur les plateaux de télévision. Au cours de mes participations, je suis également consciente de la scénarisation des émissions et débats auxquels je suis conviée. Je suis consciente du rôle à jouer, mais je connais également celui que je décide de jouer sur la base de ma propre capacité d'agir. En premier lieu, en tant que femme, plusieurs attributs physiques sont à prendre en compte. Mon âge, la couleur de ma peau, ma coiffure, ma corpulence. Ensuite, il importe de prendre en considération la teneur de mon discours. Il s'agit enfin de mettre ces deux types de données en relation. Car c'est bien le rapport entre chacune de ces deux catégories qui permet d'éclairer mon propos. Ainsi, un intellectuel très respecté et encore plus médiatisé pourra appeler la direction de l'une des stations de Radio France pour se plaindre des inepties déblatérées par une espèce d'Africaine qui est passée à l'antenne. Ainsi, sur un plateau de télévision, on pensera me complimenter en me décrivant comme épatante parce que je m'exprime bien. Un homme d'âge mûr, réputé, cultivé, socialement favorisé, se décrivant lui-même comme hétérosexuel, français de souche, blanc et catholique, pourra, quant à lui, déclarer ne pas supporter les mosquées en France. Il ne sera nullement inquiété, ni décrié, il n'est pas question de deux poids, deux mesures, mais plutôt de deux corps, deux mesures. Toujours sur un plateau de télévision, au cours de l'enregistrement d'une émission, j'ai une fois vivement débattu avec une enseignante du second degré, autrice de plusieurs ouvrages, pour la plupart consacrés aux problèmes sociaux qui secouent la France hexagonale contemporaine. L'angle d'approche de ses travaux peut aisément se révéler d'un ennui absolu pour quiconque étudie sérieusement la société française telle qu'elle existe dans la réalité plutôt que dans le fantasme. L'autrice est une figure médiatique jouissant d'un prestige relatif. Elle est tout du moins fréquemment invitée à faire la promotion de ses publications. Elle a un accès facile à la parole publique, rappelons que celle-ci est rare et précieuse. Ce qui équivaut à dire que cette parole publique et son accès sont éminemment poétiques. Au cours de ce débat, qui fut houleux, cette enseignante du second degré m'a lancé de manière très soudaine et en décalage total avec le sujet de conversation en cours « Publiez votre thèse ». La phrase me hante depuis. Sur le moment, j'étais stupéfaite. Je n'ai en mesure de répondre que quelque chose comme « Ne rédigez pas de thèse et vous serez invité sur des plateaux de télévision quand même. Ne vous inquiétez pas. » Mais l'injonction m'a hanté longtemps après la fin de l'enregistrement de cette émission. Je tente à présent de l'analyser et d'en déceler le sens profond. À mes yeux, se publier votre thèse est des plus révélateurs d'un malaise, d'une mauvaise foi, de la non-acceptation de mon statut social à l'aune de mon identité raciale. Je prends cette injonction comme une tentative désespérée de disqualifier ma légitimité intellectuelle. Car il faut se souvenir que l'accès à la parole publique se fonde sur la question de la légitimité, quel qu'en soit le titre. Ainsi, dans le cadre d'une émission de télévision consacrée au débat d'idées, les titres et les statuts des invités font loi. Si cette femme et moi-même sommes conviés à ce type d'émission, l'invitation est décidée sur la base de nos titres respectifs. Elle, en tant qu'autrice d'un essai enseignante au collège, moi, en tant qu'enseignante-chercheuse en poste au sein d'université. Nos statuts respectifs valident notre légitimité. C'est donc sur cette base que je pense que le « publier votre thèse » et l'impératif indiscutable qu'il contient mérite une attention toute particulière du fait de la grande violence symbolique dont il témoigne. Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire, Maboula Somoro, édition La Découverte, 2020. Fait tout ça, ouais, aïe, chérie. Pourtant, c'est où, mémé? Oh, pourtant, c'est où, mémé? Chérie, fait tout ça, ouais, aïe, chérie. Pourtant, c'est où, mémé? Pourtant, c'est où, mémé?
vous moi-même. Pourtant c'est vous moi-même.
Let's go.